et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour vous faire du bien, vous rassurer sur les sujets de santé qui vous préoccupent. C'est bien sûr, c'est qui d'ailleurs? C'est le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous, quel teasing, oh, voilà.
Vous l'avez vu, je fais des blagues dès le début de l'émission comme ça. Allez, c'est parti. Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à l'hypersensibilité. Vous avez l'impression de vivre de façon excessive les situations que d'autres trouvent anodines. Vous vous êtes toujours senti différent, à l'écart ou incompris. Eh bien, vous êtes peut-être hypersensible, un trait de caractère qui concernerait plus de 30% de la population. Alors rassurez-vous, ce n'est pas une maladie. Et grâce à notre invité du jour, Saverio Tomasella, il est docteur en psychologie. On va tenter de vous apprendre à apprivoiser vos émotions, dans l'émission bien sûr, pour mieux vivre avec elles, car elles peuvent être un trésor intérieur incroyable. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, nous ferons un zoom cet après-midi sur la scoliose. Pourquoi, par quoi est causée cette déviation de la colonne vertébrale? Et surtout, peut-on traiter ça? Si oui, comment? Jimmy fera le point. Enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle répondra à une jeune femme très inquiète, car son compagnon et la communication de couple, c'est pas gagné.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va démarrer par cette question que nous a posée Martine, elle a 51 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, j'espère que vous allez bien. J'ai 51 ans, j'ai quelques bouffées de chaleur de temps en temps, mais rien de vraiment très handicapant non plus. Comment savoir si c'est lié à la ménopause? Est-ce qu'il faut faire un test? Est-ce qu'un test existe? Merci beaucoup, bonne journée, bonne émission.
Alors Jimmy, un petit rappel, la ménopause physiologiquement chez une femme, hein, parce que ça ne touche pas les hommes bien sûr, ça correspond à quoi?
Alors la ménopause, c'est la période de la vie, dans la vie d'une femme où on va ne plus avoir d'ovulation et où, par conséquent la production d'hormones, d'œstrogènes et de progestérone va s'arrêter et ça va s'accompagner de tout un tas de bouleversements avec des symptômes physiques liés à cette ménopause et au fait qu'on ne peut plus avoir d'enfants car lorsque la petite fille naît, elle a un stock de follicules, d'ovocytes, qui va déterminer...
Le stock, il est là dès la naissance.
Exactement. Hein, et lorsqu'il s'épuise, eh bien, on arrive sur la ménopause.
D'accord. Bon, vous n'avez pas ce problème-là, vous, les hommes. Alors, c'est quelque chose qui est brutal. Du jour au lendemain, vous parliez de symptômes un peu embarrassants. Ou est-ce qu'il y a forcément cette phase qu'on appelle la pré-ménopause? Ça se passe comment, en général?
Alors oui, effectivement, il y a toujours cette phase de périménopause, de pré-ménopause.
C'est rare que ce soit du jour au lendemain. Quoi,
exactement.
Hein,
où les cycles vont devenir irréguliers, s'espacer dans le temps. Mais on va quand même avoir des cycles. Sauf que la période de ménopause va être définie par l'absence de cycles pendant un an.
Total,
si au bout d'un an, il
n'y
a plus du tout de règles,
ouais.
Eh bien, on est dans une période de ménopause. Et avant, c'est la période de périménopause où malgré tout, on peut encore avoir des enfants. Donc attention, il faut malgré tout avoir une contraception ou avoir des désagréments justement liés à cette périménopause et là où les hormones vont commencer un peu à fluctuer.
Est-ce que c'est si important, au fond, Martine nous pose la question, mais est-ce que c'est si important de savoir qu'on est ménopausé? Est-ce qu'il y a des examens, comme elle le demande, qui permettent de le confirmer? Parce que vous avez dit les cycles, évidemment, on peut regarder si on a ses règles.
Alors,
ou pas. Mais
c'est important si vous avez une ménopause précoce avant, ouais, 40 ans, puisqu'on sait que lorsqu'il n'y a plus d'hormones, il peut avoir une atteinte osseuse avec de l'ostéoporose, un risque d'augmentation de maladies cardiovasculaires. Donc en règle générale, la ménopause arrive entre 45 et 55 ans.
Je crois que la moyenne,
aux alentours
c'est
50 ans, on est ménopausé. Souvent, lors de la périménopause, on fait des examens complémentaires pour voir si justement le taux d'hormones baisse, mais si authentiquement vous n'avez plus de cycle pendant un an, il n'est pas nécessaire de faire un bilan.
Juste pour terminer, on rappelle qu'à ce moment-là, ménopause, périménopause, ça ne veut pas dire fin de suivi gynécologique. Hein.
Exactement, on continue de faire le frottis, de voir, on rentre à ce moment-là dans le cadre du dépistage de la mammographie à faire. Donc l'arrêt des cycles ne veut pas dire l'arrêt du suivi, effectivement. Continuez de voir votre gynécologue, votre médecin ou même votre sage-femme.
Très bien, merci beaucoup Jimmy pour ces précisions. On va passer tout de suite à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Pierre qui nous a appelé de Lens. On l'écoute.
Bonjour Mélanie et bonjour au docteur Jimmy Mohamed. J'avais une petite question à propos de mon fils qui a reçu un ballon en pleine face hier en jouant au foot. Il a un peu saigné au début, mais après plus rien. Donc est-ce que néanmoins il est possible qu'il ait une fracture du nez ou est-ce qu'il en faut plus que ça? J'aimerais un petit peu éviter les hôpitaux en ce moment. Merci beaucoup pour vos lumières et puis bonne émission et prenez soin de vous.
Alors Jimmy, d'abord, est-ce qu'un ballon dans le nez, quand même, ça peut casser un nez? Parce que bon, en coup de poing, on imagine un ballon, bon, je vois.
Alors tout dépend.
Ça dépend de la force. Là,
exactement.
Si c'est Ronaldo qui le lance dans,
voilà,
dans le nez.
Si c'est, ouais, Cristiano Ronaldo.
Si c'est Jimmy, bon.
Ou un joueur de l'Olympique de Marseille, à mon avis, le nez, il ne va pas réussir à le viser, comme la cage, malheureusement. D'accord. Alors effectivement, on peut malgré tout, avec un ballon, si jamais il y a une force cinétique importante, avoir une fracture du nez, mais souvent, ça survient lors de contacts physiques, de coups de coude, de coups de poing, d'agression, ou lors de chute, en particulier chez la personne âgée, lorsque vous allez du coup avoir votre nez contre le sol.
D'accord. Et alors, comment savoir s'il y a une fracture? Parce que là, il décrit donc des saignements de nez chez un petit enfant. Est-ce que ça suffit, saigner du nez? C'est pas forcément le nez cassé.
Non, mais dans un contexte de traumatisme, lorsqu'il y a une fracture des os propres du nez, fracture du nez, il y a un saignement qui est souvent très important et ça doit vous faire consulter pour savoir s'il y a ou non
fracture.
Une fracture. À ce moment-là, vous allez avoir de l'œdème, un hématome et une douleur importante et souvent une obstruction nasale, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à respirer par le nez. Et à ce moment-là, il est impératif de consulter.
Très rapidement, ça se soigne comment? Ça se plâtre un nez?
Alors, lorsque la fracture est très déplacée, vous avez 10 jours pour aller voir l'ORL et vous faire opérer si jamais il y a un déplacement,
pour
car au-delà
dans
de
le
ça,
bon sens.
Il y a une consolidation et donc votre nez va être déformé. Dans l'immense majorité des cas, on n'a rien à faire. Le nez, lorsque la fracture est peu déplacée, ça rentre tout seul et on a de temps en temps recours aux antibiotiques lorsqu'il y a une fracture ouverte. Bref, on doit consulter souvent dans les 48-72 heures pour que l'hématome soit résorbé et que le médecin puisse savoir si oui ou non, il faut vous faire opérer.
Très bien, merci beaucoup Jimmy, c'était très clair. Alors si vous aussi, comme Pierre qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout pas d'hésitation.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite en studio avec nous notre invité du jour, c'est vous, Saverio Tomasella. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Alors vous êtes docteur en psychologie, l'auteur du livre L'hypersensibilité pour les nuls, qui est paru chez First. Et on va commencer par les bases. Hein. D'abord, ça veut dire quoi précisément être hypersensible? Parce que c'est un terme qu'on peut utiliser comme ça dans le langage courant, mais finalement c'est quelque chose qui existe vraiment. Hein. C'est quoi précisément?
Alors, hypersensible, c'est une traduction française d'un terme anglo-saxon qui est highly sensitive, hautement sensible. Donc moi, je vais plutôt dire hautement sensible et parler de sensibilité élevée. Mais c'est vrai que dans la majorité, les gens parlent beaucoup d'hypersensibilité. En fait, c'est tout simplement une sensibilité supérieure à la moyenne et elle touche 30% de la population, d'après une étude de 2018, qui est une étude anglo-saxonne. Et elle se caractérise par une très grande attention portée aux détails et une suractivation mentale. Parce que la personne hautement sensible va décortiquer toutes les informations qu'elle reçoit et être finalement perméable. Elle est très réceptive à toutes les informations, que ce soit au niveau sensoriel, émotionnel, intuitif et cognitif.
Justement, du coup, il y a peut-être plusieurs formes d'hypersensibilité. Est-ce qu'à l'inverse, certains hommes ne seraient pas du tout sensibles, notamment, je ne sais pas, aux tâches ménagères et on ne serait pas très attentif à certains détails dans la maison? Est-ce que c'est peut-être lié à ça?
Alors effectivement, on peut avoir des formes de sensibilité élevées uniquement sensorielles. On va alors parler d'hyperesthésie, des personnes qui sont très sensibles soit à la lumière, soit aux parfums, aux odeurs, soit à certaines saveurs, notamment épicées, soit au bruit, même au toucher, aux étiquettes qui grattent, à la laine, etc. Ou aux vibrations, le sens kinesthésique, et qui ne sont pas forcément très émotives. Mais le plus souvent, cette hyperesthésie est tout de même accompagnée d'une forte réactivité au stress, aux émotions, et que ce soit les émotions les siennes ou celles des autres.
D'accord. Mais ça, c'est vraiment les sens, et notamment, vous parliez de l'odorat, qui sont hypersensibles. Ce n'est pas forcément quelque chose de psychique, on est d'accord? Ça ne s'accompagne pas toujours?
Alors, là encore, hein, il y a des personnes qui sont uniquement dans l'hyperesthésie, donc la sensibilité élevée sensorielle, mais souvent c'est accompagné d'une très grande imagination,
quand même, ouais.
D'une très grande cogitation. Ce sont des gens qui mentalisent beaucoup, qui se posent mille et une questions, qui doutent et qui sont tout le temps en train de penser.
Est-ce que ça fait partie d'un trait de personnalité ou au contraire ça peut être un handicap dans la vie de tous les jours et on peut souffrir de cette hypersensibilité?
Alors au départ, c'est vraiment un tempérament. C'est-à-dire une nature qui correspond à une personne sur trois. Dans une société qui valorise peu la sensibilité, il y a des personnes qui font et qui vont effectivement mal la vivre, se poser des questions, se demander si elles sont anormales ou malades ou problématiques. Et aussi dans le cas où les personnes supportent très très mal le bruit ou la lumière, par exemple, elles vont avoir du mal à vivre en ville ou dans un environnement bruyant. L'open space au travail, par exemple, va devenir insupportable. Mais le plus souvent, ça n'est pas handicapant. Mmh. C'est simplement une façon plus forte de réagir aux situations de la vie.
Parce que dans l'imaginaire collectif, on se dit « Oh, toi, t'es hypersensible, tu pleures tout le temps. » Par exemple, ces gens qui ont la larme facile, on va dire. Ce n'est pas forcément des gens qui sont tristes tout le temps, d'ailleurs. Hein.
Alors, tout à fait. quand on dit ça à quelqu'un, tu pleures tout le temps, ça peut être des larmes de joie, ça peut être des larmes de fatigue. Les pleurs...
Il pleure beaucoup, l'hypersensible
non,
ou
pas ? Non, pas forcément, ça dépend desquels. Il y en a qui pleurent, il y en a qui se mettent en colère, il y en a qui rient, il y en a qui ne disent rien et qui boudent ou qui restent dans leur coin. Donc chacun, chacune va trouver sa façon de...
Donc Jimmy qui pleure jamais, peut-être qu'il est quand même hypersensible.
Ben, peut-être.
Ouais, c'est ça, c'est peut-être. Un hypersensible qui s'ignore peut-être, c'est ça.
Mais est-ce que justement, c'est des personnes qui vont avoir une réaction disproportionnée à des situations, on va dire, ordinaires de la vie, enfin, de la vie quotidienne, où finalement, c'est...
Oui, c'est ça. Ça, c'est un trait caractéristique, cette démesure, cette disproportion, autant dans les impressions, dans la façon dont on reçoit les informations de l'extérieur ou dont on vit la situation, et dans l'expression, dans la façon dont on va raconter ce qu'on vit. Alors, soit se le raconter à soi-même pour les personnes qui sont très timides et introverties, soit le raconter aux autres. Et il y a effectivement une démesure, c'est-à-dire aux yeux des autres, ça peut paraître trop.
Il y a aussi ce qu'on appelle l'hypersensibilité cognitive. Elle se manifeste comment ? Ça veut dire quoi, ça ?
Alors, du point de vue scientifique, la définition de la sensibilité élevée, c'est le traitement approfondi des informations, c'est-à-dire que chaque information, qu'elle soit cognitive, sensorielle, émotionnelle ou autre, elle va être décortiquée, comme je le disais au début. Ce qui fait que le cerveau est en suractivité. Ça, c'est la définition scientifique de la sensibilité élevée. Ce qui fait que ça donne des personnes qui non seulement sont très observatrices, font attention aux détails.
Très intelligentes, non, peut-être aussi.
Oui, alors ouais. ça peut donner des personnes surdouées, ou en tout cas très, très, qui vont beaucoup réfléchir. Des philosophes, des mathématiciens, etc., ou des musiciens, et donc des personnes qui ont cette tendance à tout le temps cogiter, tout le temps réfléchir.
Est-ce qu'une personne hypersensible est forcément extravertie ou au contraire, elle peut être introvertie ? Est-ce qu'on a une idée de la répartition d'ailleurs entre les deux ?
Alors, en 1996, quand la première étude est sortie aux États-Unis sur ce tempérament hautement sensible, on pensait, et Hélène Aron croyait que c'était surtout lié à l'introversion, des personnes qui sont plutôt timides et repliées sur elles-mêmes. En revanche, au fur et à mesure des études, autant dans les pays anglo-saxons que dans les pays francophones, on s'est rendu compte qu'il y a trois tiers, que la population hautement sensible est répartie en trois tiers, un tiers d'introvertis, un tiers d'extravertis et un tiers de personnes introverties dans des situations où elles sont mal à l'aise ou peu connues, qui vont être extraverties en famille, avec les amis, avec les personnes qu'elles connaissent bien.
Alors, je crois qu'il existe aussi les ultra-sensibles. Ils ont quoi ? Ils sont combien ? Et ça veut dire quoi, ultra-sensible ? C'est encore plus qu'hypersensible, je ne sais pas.
Alors, effectivement, nous nous sommes rendus compte en faisant des études que sur ces 30% de personnes hautement sensibles, il y en a la moitié qui vont mal vivre leur sensibilité élevée et qui vont s'appeler les hypersensibles. Et la moitié qui vit bien, qui a trouvé petit à petit comment bien vivre sa sensibilité élevée. Et on les appelle les ultra-sensibles. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui vont être artistes, qui sont très créatives, qui ont trouvé comment se débrouiller dans leur vie pour bien vivre leur sensibilité élevée. Donc c'était pour faire la différence entre les personnes qui vivent mal ce tempérament et celles qui le vivent bien.
Vous dites qu'il y aurait 30% d'hypersensibles en France à des degrés, à des échelles différentes. Mais est-ce qu'avec le temps, comme la société ne valorise pas justement ce genre de tempérament, est-ce qu'on peut penser qu'il va en avoir beaucoup moins ? Puisqu'on est un peu formaté, on doit tous être un peu, voilà, se lever, travailler, ne pas trop exprimer un signe de faiblesse. Ou est-ce que ça restera 30%, quoi qu'il arrive ? Est-ce qu'on a des études ?
Alors, au début, le pourcentage proposé était de 20%, et on s'est rendu compte qu'il y en avait plus que 20%, donc 30% aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que la société et le monde est dur que ça provoque une exacerbation de la sensibilité, qui fait que de plus en plus de personnes seraient hautement sensibles, ou au contraire, comme vous le dites, du fait que la société ne facilite pas, ne favorise pas l'expression de la sensibilité, est-ce qu'il va y avoir de moins en moins de personnes qui seront visiblement hautement sensibles ? Ça, pour l'instant, on ne peut pas le dire. Et il y a un sociologue qui commence à faire des recherches sur ce thème, mais c'est tout nouveau, ces études sont nouvelles. Donc on n'a pas encore les résultats. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'une personne hautement sensible qui n'exprimerait pas ce tempérament ou qui n'en aurait pas conscience, ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus hautement sensible. Ça veut dire qu'elle se débrouille pour ne pas le montrer ou pas pour faire en sorte que ça se passe plutôt bien.
Saverio Tomasella, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Surtout, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est Saverio Tomasella. Vous êtes docteur en psychologie et l'auteur du livre L'hypersensibilité pour les nuls, qui est paru chez First. L'hypersensibilité, notre sujet évidemment du jour, on est d'accord, ce n'est pas une maladie. Hein.
Voilà, c'est très important de le dire et de le redire. L'hypersensibilité, c'est un tempérament, c'est une nature, c'est une façon d'être. Il y a même des anthropologues qui disent maintenant c'est une certaine vision du monde. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de définitions qui existent. Mais ça n'est pas une maladie, ça n'est pas une pathologie.
J'en profite parce qu'on a une question, enfin pas une question, mais un témoignage de Guillaume sur Twitter qui nous dit « Merci pour votre émission actuelle. Je me reconnais, sensibilité, cogitation, émotif qui m'a amené à une addiction à l'alcool pour oublier tout ça. C'est fréquent effectivement du coup quand c'est pas géré ou j'en sais rien ou pas diagnostiqué d'être plus vers les addictions ou pas, je ne sais pas. »
Alors, on verra, on parlera peut-être tout à l'heure de la différence entre les hommes et les femmes, parce que ce n'est pas tout à fait la même façon de le vivre. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on n'arrive pas à exprimer ses émotions ou qu'on vit dans un environnement qui n'est pas favorable à la sensibilité, on peut avoir tendance à trouver des expédients, des façons de vivre sa sensibilité. Ça peut être faire beaucoup de sport, ça peut être se replier sur soi. Il y a aussi malheureusement des personnes qui se replient beaucoup sur elles, mais ça peut être les drogues, l'alcool...
Et qu'est-ce qui fait justement qu'une personne est hypersensible et l'autre pas ? Est-ce qu'il y a une part d'inné, de génétique ? Est-ce qu'on en sait un peu plus ?
Alors effectivement, il y a un certain nombre d'études. Il y a une piste génétique qui est étudiée aux États-Unis depuis une dizaine d'années. On a une étude qui a été produite disant qu'il y a un gène de l'utilisation de la sérotonine. Ce gène aurait un allèle, c'est-à-dire une branche, petite branche différente pour les personnes hautement sensibles et qui pourrait prédisposer à plus de dépression, plus d'anxiété, voire plus de tendances suicidaires. Mais qu'il y a une espèce de tempérance par rapport à cette disposition génétique due à l'influence de l'environnement. Donc dans cette même étude, on apprend, et il y a eu beaucoup d'autres études qui ont été faites aux États-Unis et au Canada là-dessus, que si l'enfant qui aurait ce type génétique grandit dans une famille, un environnement porteur, calme, encourageant, etc., il ne va pas développer cette tendance à la déprime, à l'anxiété, voire au suicide. C'est surtout dans les environnements très stressants, de famille de misère, de violence, d'alcoolisme, de beaucoup de traumatismes, etc., que l'enfant, en grandissant, notamment en devenant adolescent, jeune adulte, va développer cette tendance-là. Donc ça, c'est une des explications. Dans les recherches sur la sensibilité élevée, il y a d'autres explications. Parmi ces explications, il y a l'environnement dans lequel on grandit, l'éducation des parents, et par exemple, des parents artistes qui peuvent tellement stimuler la sensibilité de leur enfant.
Ça, c'est bien pour toi.
Voilà, ça, c'est très bien. Cet enfant-là va devenir ultra sensible. C'est-à-dire que pour lui, ça va être facile, lui ou elle, hein, ça va être très facile de ressentir des émotions, de les reconnaître, de les exprimer, de transformer ça de façon créative, etc. Donc, il y a des enfants qui vont avoir une sensibilité plus élevée simplement parce que tout petit, on leur a fait faire de la musique, du cirque.
Parce que tout peut se jouer dès la naissance, je veux dire. Est-ce que si on a cet allèle, ce code génétique, entre guillemets, favorable, et puis cet environnement favorable, parce que des parents artistes ou parce qu'un environnement paisible, calme, ou à l'inverse, enfin, je veux dire, dès les 6 premiers mois de vie, par exemple, ça peut déjà avoir un impact ?
Alors justement, ça, c'est la troisième piste qui ne parle pas de génétique, mais plutôt de généalogie. Qu'est-ce qui s'est passé
dans la petite enfance
Même dans la grossesse, pendant la grossesse maman, hein, les derniers mois de la grossesse, la naissance, tout ce qui est périnatal va jouer un rôle très important. Comment se passent les premiers mois de la vie? Est-ce que l'enfant est bien accueilli ou pas? Et on sait qu'il y a des familles où, entre les frères et sœurs, qui ont à peu près la même hérédité, eh bien, il va y avoir un enfant qui va être beaucoup plus sensible que les autres. Et souvent, c'est lié à des événements clés qui ont eu lieu dans la famille.
Pour lui et pas les autres frères.
Voilà, ou qui l'ont impacté lui ou elle plus que les autres.
Vous dites que l'hypersensibilité est liée à une prédisposition génétique. Est-ce qu'on pourrait imaginer que cette hypersensibilité s'accompagne, non pas est provoquée, mais s'accompagne d'autres pathologies ou au contraire, c'est quelque chose qui reste isolé et on n'a rien d'autre à côté?
Alors, déjà, cette hypothèse génétique, c'est encore une hypothèse et ce serait une partie des personnes hautement sensibles, mais pas toutes.
Ça donne une piste.
Ça donne une piste qui semble devenir fiable. Ensuite, quand la personne est hautement sensible, ça va être un tempérament global. Et sur ce tempérament, par exemple, si je reste au niveau des pathologies psychiques, peuvent se développer toutes les pathologies des autres personnes. C'est-à-dire qu'une personne hautement sensible peut devenir hystérique, obsessionnelle, phobique, voire maniaco-dépressive, schizophrène ou paranoïaque. Hein, c'est-à-dire ou devenir psychopathe. C'est-à-dire que ce n'est pas l'hypersensibilité en elle-même qui prédispose à telle ou telle psychopathologie. Mais elle va servir de caisse de résonance de telle ou telle pathologie. Et bien, c'est pareil sur le plan des pathologies physiques. C'est-à-dire qu'on a une étude qui montre que la personne hautement sensible peut sentir la douleur jusqu'à 40% plus fort qu'une personne moyennement sensible. Hein, ça se joue dans une zone du cerveau qui est liée aux douleurs. Et donc, une personne qui aurait n'importe quelle maladie, mais qui serait hautement sensible, va souffrir d'autant plus des douleurs de cette maladie.
Alors, est-ce que ça ferait un peu écho, notamment la fibromyalgie, par exemple ? Parce que le fait d'avoir des douleurs chronique, à répétition chronique augmente le seuil de sensibilité et on peut développer éventuellement la pathologie ?
Alors, tout à fait. Il y a des études, malheureusement très lentes pour l'instant, entre le lien qu'il pourrait y avoir entre haute sensibilité, fibromyalgie, ce genre de maladie. Et là, on pense qu'effectivement, il y a un lien très fort pour ce genre de maladie.
On imagine, mais on se doute bien que ce n'est pas forcément vrai. Hommes-femmes, quelle répartition ? Est-ce que les femmes sont plus hypersensibles que
Alors,
les hommes ou pas du tout ?
Là, on a une équité, une parité absolument exceptionnelle.
On aurait envie, dans le monde actuel, de dire oui, c'est forcément un truc de femme.
Ce sont les femmes maintenant. En fait, toutes les études, quelles qu'elles soient, dans quelques pays que ce soit, prouvent qu'il y a autant de garçons
que de filles. Pour
une fois
qu'on a égalité sur
quelque chose.
C'est
une véritable égalité entre les hommes, les femmes, les garçons et les filles. Il y a autant d'hommes que de femmes hautement sensibles. La différence, elle va être culturelle et sociale, c'est-à-dire que l'homme ne va pas accueillir sa sensibilité et sa sensibilité élevée de la même façon, ne va pas en parler aussi librement, ne va pas se sentir autant à l'aise avec sa sensibilité que les femmes.
Saverio Tomasella, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez avec nous.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes bien sûr sur Europe 1 dans son rendez-vous et il nous accompagne cet après-midi. C'est Saverio Tomasella. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie et l'auteur du livre « L'hypersensibilité pour les nuls » paru chez First. Alors, vivre avec une hypersensibilité, vous l'avez dit, ce n'est pas une maladie, mais ce n'est pas rien non plus. Déjà, dès l'enfance, à l'école, peut-être, pour les parents qui nous écoutent et qui ont peut-être reconnu leur enfant, est-ce que c'est important d'en parler peut-être avec le maître, la maîtresse ?
Oui, je pense que c'est important de prévenir les enseignants d'un enfant ou d'un adolescent hautement sensible parce que ça donne des clés. Alors moi, j'ai écrit plusieurs fois aux différents ministres de l'Éducation nationale pour les prévenir. Là, pour la première fois en septembre, on a reçu une réponse du ministre disant qu'il allait essayer d'informer les enseignants parce qu'en fait, il y a certaines choses qui changent. L'enfant hautement sensible, il peut être hyperactif ou au contraire, très replié sur lui-même. Alors, il ou elle, hein, c'est un garçon ou une fille. Il peut avoir besoin de plus d'encouragement. Il peut se décourager donc plus vite. Et si l'enseignant est très dur ou s'il fonctionne un peu à l'ancienne en donnant des punitions, etc., l'enfant hautement sensible risque de se braquer. Pas méchamment, mais simplement parce qu'il va avoir l'impression qu'il n'est pas accueilli tel qu'il est. Et il faut savoir que c'est important aussi que les enfants hautement sensibles, d'ailleurs toutes les personnes hautement sensibles, mais les enfants hautement sensibles perdent leurs moyens quand ils sont observés. Que ce sont des enfants qui ont besoin de beaucoup plus de temps la première fois qu'ils font une tâche.
Oui, donc l'importance de le dire aux maîtresses.
Oui, voilà,
aux
par
maîtres,
exemple, 25% de plus de temps que les autres enfants pour la première fois où ils font quelque chose, mais après une fois qu'ils sauront faire, ils vont aller aussi vite que les autres enfants. Donc si on leur dit tu es bête, tu es lent, quelle lanterne, c'est pas possible, dépêche-toi, etc., ils perdent encore plus leurs moyens et ils vont avoir besoin de ce temps-là la deuxième fois où ils vont faire la tâche. Au lieu de simplement prendre le temps la première fois et après tout ira bien. Donc lorsque l'enseignant est au courant que certains des enfants de sa classe, d'ailleurs 30% des enfants de chaque classe,
ils en ont quelques-uns dans leur classe,
hautement sensibles, donc que ces enfants-là ont besoin de plus de délicatesse, ont besoin de plus d'encouragement, ont besoin de plus de temps ou peut-être de plus d'explications la première fois qu'ils font quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ça va aider tout le monde en fait.
Mais du coup, est-ce que l'hypersensibilité chez l'enfant se manifeste de la même façon que chez les adultes ? Parce que votre description, elle est assez claire. Chez l'adulte, on comprend, on arrive vite à identifier même dans notre entourage qui est hypersensible. Mais chez un enfant qui parfois est pas colérique, peut être un peu agité, comment est-ce qu'on distingue un enfant hypersensible d'un enfant qui est pas hypersensible ?
Oui, alors chez l'enfant, c'est d'autant plus visible que l'enfant n'a pas encore cette adaptation à la société que l'adulte a acquis à l'adolescence, etc., où on sait tout de même se contenir, pas trop montrer les choses, etc., quand c'est nécessaire, notamment au travail ou en public. Alors que l'enfant, lui, va être cash. Il va tout de suite montrer comment il est, comment elle est, pleurer, crier, se mettre en colère, bouger, bouder, etc. Et donc, c'est accepter que ces manifestations apparemment un peu fortes d'un enfant sont probablement le signe d'une sensibilité élevée et que d'un enfant hypersensible à l'autre, il n'y a pas forcément la même façon de le manifester. On a bien vu, il y a un tiers d'introvertis, un tiers d'extravertis, un tiers en fonction de l'environnement. Ce qui fait qu'il y en a qui vont se replier beaucoup ou se décourager et d'autres qui vont crier, provoquer, bouger, etc.
Les parents peuvent s'en rendre compte seuls ou il vaut mieux aller voir quand même un professionnel pour faire un diagnostic de
Alors,
tout ça ?
C'est pas forcément la peine de voir un professionnel, encore que bon, pourquoi pas, on peut
ça
simplement,
fait jamais de mal.
Ça fait jamais de mal, on peut y aller pour une séance, avoir une confirmation, etc. Simplement, à partir de ce qu'on s'est dit là aujourd'hui, les parents vont très vite repérer s'ils ont un enfant hautement sensible ou pas.
Alors, vous l'avez dit, on ne gronde pas un enfant de son, d'une façon générale. L'éducation positive est à favoriser. On évite de les observer. Mais est-ce que la maison peut mettre en place d'autres outils, d'autres aménagements, justement, pour bien élever, bien éduquer, ou en tout cas bien vivre avec un enfant qui serait hypersensible?
Oui, alors à la maison, avec les enfants hautement sensibles, il y a quelques petits trucs à faire. Donner à boire souvent.
Ah oui.
Un enfant, oui. Le cerveau a besoin de beaucoup d'eau. Hein.
Oui. Donc on s'est rendu compte. Et eux, le leur encore plus, peut-être.
Probablement, puisqu'ils fonctionnent en sur-régime le plus souvent.
Donc surtout qu'ils n'en manquent pas. Quoi.
Voilà.
Faut les faire
en sorte que l'enfant boive de l'eau, hein, pas des sodas, de l'eau, et qu'il ait du temps devant lui. Faire en sorte aussi que l'enfant vienne poser des questions quand il a des difficultés à faire un devoir, mais pas être au-dessus de l'épaule de l'enfant, lui dire « Ah mais non, là tu t'es trompé
oui, !» Il n'aime pas être observé encore.
Ouais. Donc de faire confiance à l'enfant, ce sont des enfants qui sont intelligents, qui sont curieux, ça fait partie de la sensibilité élevée. Donc de toute façon, il va avoir envie de bien faire son travail. Ce sont souvent des enfants exigeants, perfectionnistes, très rangés, donc ils vont avoir envie de faire leur travail. C'est plutôt lui dire « Si tu as une question, s'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire, je suis à côté. » ou dans la pièce d'à côté, peu importe, viens me chercher, viens me voir, et chaque fois répondre présent quand l'enfant nous demande quelque chose. Et puis, ce sont des enfants qui ont besoin de faire des pauses. Hein, plusieurs fois dans la journée, que ce soit à l'école ou à la maison, ils ont besoin de faire 5 minutes de pause. Alors pour ça, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis et au Canada concernant le coin refuge. Le coin refuge qui a été créé dans les hôpitaux pour enfants, dans les écoles, et on conseille de le faire aussi à la maison. C'est quoi ? C'est une tente d'Indien ou un tapis avec des coussins, ou un endroit spécial que l'enfant se crée, ou que les parents créent pour l'enfant, qui est tout en douceur, et où l'enfant sait qu'il peut aller chaque fois qu'il est fatigué, qu'il est contrarié, qu'il est surexcité. C'est l'endroit du calme, où personne ne va le déranger. Et généralement, plus on respecte ce coin refuge, plus l'enfant y va naturellement, et il revient seul au moment où ça va. Et en fait, ça ne dure pas plus de 3, 4, 5 minutes.
Alors ces enfants hypersensibles deviennent un jour des adultes hypersensibles, puisque ça, enfin, ce n'est pas une maladie, mais ça ne se guérit pas. On reste, j'imagine, hypersensible en grandissant. On fait quoi ? On demande à son patron une tente d'Indien à son bureau. Enfin, comment on gère ça au travail ? Quels sont les conseils pour les adultes hypersensibles en milieu professionnel, surtout d'abord ?
Bah, je pense que ce serait bien de demander des tentes d'Indien aussi
au travail.
Moi, j'adorerais
en avoir une. Alors, je ne
suis pas
être hypersensible, mais ça me plairait trop.
Il y aurait un côté fun assez sympathique. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui permettent il y a des endroits où il y a des canapés.
Mais il n'y a pas de tente d'Indien dedans. Hein.
Non, voilà. Mais en tout cas, il y a des lieux de calme où on peut se retirer quand on a besoin de faire une pause. Et c'est bien de le faire aussi quand on est adulte, au moins une fois dans la matinée, une fois dans l'après-midi. Et si vraiment on ne peut pas, on met la tête dans les mains, on ferme les yeux. Et on sait, grâce à certaines études, que le fait de fermer les yeux repose le cerveau.
En cette période actuelle, il y a beaucoup de télétravail. Est-ce que du coup, on se dit que les hypersensibles doivent être contents parce qu'ils sont tranquilles, en cocooning à la maison. Ils apprécient particulièrement ça, peut-être plus que les open space, non ? J'imagine, je ne sais pas.
Alors oui, effectivement, avant l'année 2020 et ses confinements, j'avais fait une étude qui montrait que les personnes hautement sensibles aiment beaucoup le télétravail et donc essayent de demander à leur patron, à leur responsable, plus de télétravail. Donc effectivement, c'est une façon de travailler qui correspond bien aux personnes hautement sensibles.
Vous avez parlé de la sphère liée au travail, mais il y a aussi la sphère privée. Est-ce qu'avec son partenaire, il faut en parler, même si peut-être, je suppose qu'on s'en rend vite compte, non, que quelqu'un est hypersensible ?
Oui, mais je pense que c'est la relation dans laquelle il vaut mieux en parler à cœur ouvert le plus tôt possible, en disant, voilà, je suis très sensible, parce que ça va se manifester de façon un peu surprenante pour l'autre s'il n'est pas aussi hautement sensible. Dans le début de la relation, il va y avoir beaucoup d'emballement, beaucoup de passion, beaucoup de fusion, beaucoup de choses très très fortes qui peuvent sembler aller trop vite pour la personne qui n'est pas hautement sensible, en disant, ben voilà, je suis comme ça, pour moi, les choses, je m'enflamme beaucoup. Et puis après, quand la relation s'installe, ça va plutôt être dans les moments de conflit, de désaccord, que la personne hautement sensible va mal prendre les reproches, les critiques, les désaccords, et lui dire, ben oui, je suis comme ça, j'ai besoin peut-être d'un peu plus de temps pour encaisser ce que tu me dis, mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, ça ne veut pas dire que notre relation...
Plus de disputes aussi, du coup ?
Pas forcément. Non, pas forcément, parce qu'au contraire, la personne hautement sensible va essayer d'éviter les conflits, la plupart du temps. Hein. Il y a aussi des personnes hautement sensibles qui sont irritables, donc qui vont un peu à l'affrontement direct, à la bagarre. Mais voilà, il y a les deux qui existent. Pas forcément plus de disputes, mais en tout cas une façon différente de vivre la dispute et la pré-dispute.
Dans la vie quotidienne, pour du mieux, pour que tout aille bien, qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes hautement sensibles en termes de loisirs, de sorties ? Est-ce qu'il y a des choses qui les apaisent, qui leur font du bien, qui sont reconnues pour ça ? J'imagine que, je ne sais pas, regarder des films très violents pour ces gens-là qui sont très très sensibles, ce n'est pas la meilleure idée, non ?
Alors, Alors vous avez raison.
Pour mieux regarder des comédies romantiques, quoique là aussi.
Le Titanic, ça finit
non,
pas
non,
bien.
On évite.
Vous avez raison, j'ai oublié de le dire, les personnes hautement sensibles n'aiment pas du tout la violence, que ce soit dans la vie, sur les écrans ou dans les films. Donc il vaut mieux éviter de regarder trop de films violents. Dans la vie, pas la méditation. Les personnes hautement sensibles n'aiment pas trop la méditation.
Étonnamment,
alors. Le yoga, oui. D'accord. Le yoga, oui. Tout ce qui permet l'équilibre, donc qigong, tai chi, danse, sont généralement des personnes qui adorent la danse, la marche. Voilà.
Et elles aiment l'humour ? Est-ce qu'elles aiment rire ? Est-ce qu'elles aiment les blagues ?
Alors oui, c'est pas forcément de l'humour. C'est pas gagné d'avance, l'humour, chez les personnes hautement sensibles, mais elles aiment l'humour.
Mais pas l'humour salace, je crois.
Mais pas l'humour salace, voilà. C'est-à-dire ces personnes
Jean-Marie Bigard, c'est pas trop leur
cas. Non, c'est pas leur truc. C'est-à-dire ces personnes qui peuvent adorer la sexualité, mais dans l'intimité, être crues même, mais pas dans en public, elles aiment pas trop les trucs.
Voilà.
Merci beaucoup, Saverio Tomasella, d'avoir accepté de répondre à nos questions pour cet éclairage vraiment, vraiment passionnant, j'insiste. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je ne peux que rappeler donc le titre de votre livre. L'hypersensibilité pour les nuls aux éditions First. Bel après-midi et merci à vous.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. Il est temps à présent de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Aujourd'hui, faisons un zoom sur la scoliose. Savez-vous précisément ce qu'est cette déviation de la colonne vertébrale? Quelles sont les causes et surtout si ça se traite et comment, bien sûr? Benjamin Lévesque, notre journaliste de choc, vous a interrogé sur ce sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Peut-être un déplacement d'une vertèbre, ça fait penser un petit peu à quelque chose, un problème au niveau du dos en tout cas.
Un problème de dos, ça fait mal. Ouais, j'imagine qu'on va avoir du mal à se pencher, on va avoir du mal à porter des poids lourds.
Je crois qu'elle est tordue en fait, la colonne vertébrale se tord, ou en tout cas ne se plie pas dans le bon sens.
Suite à la porte de charge régulière dès l'adolescence, ou soit malheureusement une scoliose et de naissance.
Je pense qu'il y a des traitements, style oui, rééducation avec un kiné ou un ostéopathe ou je sais pas, quelque chose comme ça. Ou est-ce qu'il faut avoir carrément des corsets ou des machins, je sais pas.
Alors Jimmy, on va reprendre du début. D'abord, quand on parle de scoliose, j'allais dire, c'est quoi la cool attitude? De quoi s'agit-il précisément? La scoliose,
alors
pardon.
La scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale dans les trois plans de l'espace, de gauche à droite, d'avant en arrière, et c'est associé en plus à une rotation des vertèbres qui vont donc déformer la colonne vertébrale. Et ça se mesure de façon assez simple, avec des outils géométriques, pour calculer des angles qui vont définir la scoliose.
Est-ce que c'est un problème? Parce qu'on a l'impression, on entend souvent parler au début de l'année, au moment des cartables très lourds, là, quand ça commence, les parents disent « Oh là là, mon enfant va avoir une scoliose ». Est-ce que justement c'est plus fréquent chez les petits, les enfants, ou finalement on peut l'avoir aussi à l'âge adulte?
Alors,
ou même très, très plus âgé?
Les cartables lourds n'entraînent pas de scoliose, ils vont entraîner des problèmes lombaires évidemment et des douleurs. La scoliose, on le verra après, mais n'est pas douloureuse. Et elle débute la plupart du temps dans l'adolescence, sous l'effet de la croissance. Il y aurait aussi un mécanisme hormonal, bien qu'en général, on le découvre, je vous l'ai dit, vers 12, 13, 14, 15 ans. Elle évolue tout au long de la vie, si elle n'est pas traitée.
D'accord, vous dites qu'il y a des causes hormonales. C'est quoi les causes principales de la scoliose? Parce que si vous avez dit « ça peut être en partie hormonal », c'est que ce n'est pas que ça, c'est quoi d'autre?
Alors, il faut savoir que ça touche 85% plutôt les filles.
Ah, d'accord.
Donc, c'est majoritairement les filles, et c'est d'où l'idée qu'il y aurait un impact hormonal. Dans 80% des cas, elle est dite idiopathique, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la cause.
Ah, oui.
Il y a quelques explications, quelques pistes. La première, on a une glande dans le cerveau qu'on appelle l'épiphyse, qui sécrète des hormones, des neurotransmetteurs au moment de la croissance qui ne marcheraient pas très bien et qui vont avoir une influence sur le développement de la colonne vertébrale qui, en quelque sorte, va se faire de façon anormale. Il y a un terrain génétique, puisque les filles, les mamans d'une enfant qui est scoliotique, va peut-être avoir aussi une scoliose.
D'accord.
Mais ça ne veut pas dire qu'elle sera aussi grave. Dans 10% des cas, elle s'accompagne de maladies neurologiques et en particulier neuromusculaires. Mmh. Et dans 5% des cas, c'est congénital, donc c'est donc dès la naissance.
Ce que vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas forcément de douleur, mais comment ça se diagnostique alors?
Alors, pas de douleur, vous avez vu le bossu Notre-Dame, Quasimodo, il dévale les escaliers.
C'est une scoliose, non, là c'est une scoliose,
c'est avec une gibbosité. La bosse que vous voyez, justement, c'est lié à la déformation, on appelle ça une gibbosité que le médecin traitant peut diagnostiquer en faisant un test tout simple. Mmh. Mais non, ça n'entraîne pas de douleur, sauf lorsqu'il y a un angle très important de la scoliose qui va aboutir à une fixation de la colonne vertébrale, mais vers 30-40 ans.
D'accord.
Mais un enfant scoliotique n'aura pas de douleur. Et s'il a des douleurs, c'est peut-être lié à autre chose.
Alors, est-ce qu'il est important de consulter, puisque enfant ou adulte d'ailleurs, est-ce qu'il y a des traitements?
Oui, il est important de consulter. Le médecin doit le dépister, le pédiatre ou le généraliste. Dans 90% des cas, ça évolue de façon favorable, sans traitement chirurgical. Dans une fois sur deux, on a besoin de porter un corset.
Quand même,
normalement, 24 heures sur 24, même si on sait que c'est difficile à porter.
Ouais.
On l'arrête vers 16-17 ans, là où la croissance va tranquillement se stabiliser. Et à ce moment-là, le patient n'est pas opéré, il a une vie normale. Tous les autres traitements, la kiné, les semelles, n'ont pas fait preuve d'une efficacité, même si ça peut aider à accompagner l'enfant.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Alors bien sûr, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette ultime séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on a une question d'Anna, je vous la lis tout de suite. Cela fait maintenant 1 an et demi que je suis en couple avec un garçon pour qui la communication n'est pas son fort. Il répond parfois à mes messages le lendemain. Il me dit sans cesse qu'il ne voit pas mes messages ou qu'il n'a plus de batterie. Je devrais m'inquiéter, Jimmy devrait s'inquiéter. Non, on va demander à Catherine plutôt.
Oh, c'est mieux. Quelqu'un de diplomate.
Parce que Jimmy, il a dit oui, inquiète-toi.
Quel tocard.
Sinon, nous n'avons pas de chronique, c'est ça.
Bon, il y a carrément un problème de communication dans ce couple. En tout cas, il fait semblant ou la vérité, il ne voit pas ses messages. Qu'est-ce qu'elle doit en penser?
Je crois que d'abord, c'est vrai que tout le monde n'a pas le même talent pour pouvoir communiquer, pour pouvoir exprimer ses sentiments, ses émotions, ses plaisirs, ses déplaisirs ou réagir à l'autre.
Répondre à des textos, c'est pas bien compliqué quand même. Hein.
Oui, mais tout dépend. Je ne sais pas quelle est la dose d'attente et la dose de texto qui est envoyé et donc les réponses qui se font ou ne se font pas. Tout le monde n'est pas à l'aise pour écrire ou c'est oui, non. Quand l'autre en face élabore une phrase, un texte, voire carrément une missive. Donc voilà, on n'est pas tous égaux. Et certains, évidemment, dans la difficulté, se profitent de la difficulté pour ne pas faire l'effort de la communication. Or, évidemment, un couple, une relation de couple, mais aussi une relation d'amis, une relation de familiale ou sociale, nécessite un temps soit peu de lien à l'autre.
Le mec, il répond le lendemain quand même. Salut chérie, est-ce que tu viens dîner ce soir? Il répond pas, elle a la réponse le lendemain, c'est embêtant quand même.
Oui, effectivement, et ça pose la question de pourquoi elle persiste, pourquoi elle arrive à tenir comme ça 1 an et demi. Qu'est-ce qui fait que dans cette relation qu'elle ne trouve pas, elle, respectueuse de son attente, hein, ça ne veut pas dire que lui n'est pas respectueux, mais pas respectueuse de son attente. Qu'est-ce qui fait qu'elle est encore là à attendre et à subir? Quelle est la part de masochisme qui maintient, au nom de quoi nous maintenons une relation qui ne nous convient pas, comme si on se disait qu'avec le temps, on finirait par faire céder l'autre et l'obliger à parler, alors que très certainement, c'est une incapacité ou un sadisme volontaire ou inconscient d'ailleurs à son intention.
Mais ne pas voir les messages de temps en temps, avoir un problème de téléphone ou de batterie, ça peut arriver, mais au bout d'un an et demi, c'est plus un problème de communication, c'est un mensonge. C'est-à-dire qu'il travestit la réalité.
Voilà, ça y est, on a l'analyse du docteur Jimmy Mohamed.
Non, mais parce que je peux comprendre, c'est vrai que si elle le bombarde de messages et qu'au bout d'un moment, il a la marre, il pourrait tout simplement lui dire. Mais là, le fait de dire « je n'ai pas vu ton message », c'est plutôt « je n'ai pas envie de les lire » ou « je n'ai pas lu » ou « c'était pas important ». Donc il y a vraiment, malgré tout, un problème, même si c'est leur mode de fonctionnement.
Oui, il y a en tout cas le fait que lui ne met pas de l'importance là où elle met de l'importance. Alors oui, il se fout peut-être d'elle, mais peut-être aussi que c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à son téléphone, qu'il a dans un coin de la maison et qui n'est pas accro au téléphone. Tout le monde n'a pas son téléphone greffé sur lui. Ça ne c'est pas pour l'en excuser, mais c'est dire qu'il y a aussi ces possibilités-là. On n'est pas obligé. Avant, il y avait un téléphone qui était fixe, il n'y avait pas de répondeur. Le téléphone sonnait, on était là, on répondait. Il sonnait, on n'était pas là, on ne répondait pas. Aujourd'hui, on est censé répondre dans la seconde, à l'autre,
le rassurer. La seconde et le lendemain. Le lendemain, voilà. C'est quand même très loin. On dirait qu'il veut la faire souffrir quand même. C'est un peu bizarre.
Alors, ou en tout
c'est
cas,
peut-être une relation un peu toxique, effectivement.
C'est en tout cas, de toute façon, c'est deux rythmes qui ne vont pas. Moi, je ne suis pas là parce que, encore une fois, c'est une question qui est posée par une personne. Donc, c'est toujours intéressant de savoir comment l'autre en parlerait.
On n'a pas la réponse.
Voilà, donc on ne va pas se mettre à juger les choses. Mais se dire que, de toute façon, il n'y a pas de rythme qui correspondent. Il y a une personne qui n'a manifestement pas ni l'aisance ni l'envie de communiquer et une autre qui est dans l'attente et qui demande à moi, qu'elle ne connaît pas, de juger si elle doit s'inquiéter et partir ou non, alors que la seule personne qui peut en décider...
Elle semble déjà assez inquiète, hein, j'ai l'impression.
Voilà. Ouais. Elle est inquiète et elle a raison de l'être puisqu'elle souffre. Et dans la mesure où elle souffre, la question n'est pas de savoir si elle a raison ou tort ou si l'autre a raison ou tort, c'est je ne suis pas bien, pourquoi je reste? Pourquoi je suis capable de rester face à quelqu'un qui ne me parle pas, et pourquoi je vais quémander son amour? Et ça fait référence à quoi? Alors après, je trouve très intéressant de voir, si je suis avec cet homme depuis 1 an et demi, qu'est-ce qui dans mon histoire personnelle me fait être en capacité d'accepter ça? Et très certainement que j'ai dû grandir dans un univers où déjà les preuves d'amour n'étaient pas faciles à glaner, que ça n'était pas, que c'était, il fallait lourdement attendre, souffrir l'attente d'une maman, d'un papa peut-être, d'une reconnaissance ou d'une fierté. et que ces manques-là historiques, elle les reprovoque dans une relation, et cet homme-là arrive pile poil parce qu'il est exactement le profil idéal d'un mode de relation basé sur une certaine souffrance et un certain sadisme de l'autre.
Merci beaucoup Catherine pour
Je
tous ces conseils.
Prie.
Voilà, c'est la fin
Donc
de cette
prenez
émission.
Soin de vous.
Exactement. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie.
Alors aujourd'hui, le thème de l'émission, faut que je vous dise, c'est des glaçants hommes de glace.
On va avoir peur.
On va avoir peur, oui. Il y a un rapport avec la glace. Ötzi, vous savez, c'est l'homme qui était retrouvé 53 siècles après son existence.
Un Suisse allemand, probablement, vu son nom. Ötzi.
Oui, mais non, parce qu'il est dans ses... Je crois que c'est plutôt la montagne où on l'a trouvé.
C'est là où on l'a trouvé.
Ensuite, Richard Kuklinski qui lui congelait ses victimes, c'est un tueur en série. Et vous avez trouvé alors un homme qui aime la glace aussi, qui est assez froid d'ailleurs.
Oui, mais ça c'est ce qu'on dit, c'est ce que ses détracteurs disent de lui. Alexei Navalny dit que c'est quelqu'un qui n'est pas très sympathique. Vladimir Poutine, qui serait un homme de glace, mais c'est un homme de glace, et il est aujourd'hui dans notre émission uniquement parce que c'est quelqu'un qui peut se baigner dans une eau glacée. Il le fait une fois par an au moment de l'épiphanie. Et c'est un vrai bonhomme. Je vais vous montrer, c'est un mec bien.
Merci beaucoup messieurs, je vous souhaite une excellente émission. Nous serons à l'écoute et vous aussi surtout, restez sur Europe 1.